Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h, 18h.
Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews.
Et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Ce souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mot.
Moi, je vais
tout
mettre au régime.
Nous parlons tous dans la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi,
les citoyens
de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien dans le Tous au poste sur Divergence FM 93.9 et puis divergence-fm.org pour ceux qui nous écoutent à travers le net en ce mercredi 21 avril 2010. Nous sommes ensemble pour 50 minutes de virée culturelle où nous écouterons la nouveauté de la semaine avec Gonja Sufi avec son nouvel album. Sufi and Killer. En première partie, Julia recevra Denis Badaud pour nous parler de poésie verticale. Et puis en deuxième partie, ce sera Florent Robin qui recevra Michael Terra et Antoine Chapelot du Théâtre de l'Hyménée. Voilà, on est ensemble pour 50 minutes. Mais avant cela, évidemment, nos incontournables bons plans. Et oui, on ouvre le bal avec de la pop-rock, Luc, groupe de rock bordelais avec les compositions de leur nouvel album. D'autre part, seront donc à 19h30 au Rockstore 20 rue de Verdun pour un prix des places étant fixé à 22 euros. Du reggae roots underground, un groupe de reggae roots jamaïcain à 20h30 à l'Antirouille, 12 rue Anatole France, prix des places 15 euros quand même. On change de registre avec du blues, Koutal Blues, un groupe de blues fusion montpelliérain à 21h au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, entrée 5 euros. Toujours dans le registre musical de l'électro avec DJ Zita Spaggiari à 23h au Mix Coffee, 13 rue du Grand Saint-Jean et l'entrée est libre. Électro toujours avec Rock It to the Moon avec Piet Jean à partir de 20h30 au bar Le 8, 8 rue de l'Aiguillerie, entrée toujours libre. Pas très très loin, Printival, la Pézenas, la compagnie du petit vélo, fanfare, rock'n'roll, circus avec musiciens et jongleurs dans le cadre donc des découvertes du Printival, hommage à Bobby Lapointe à 19h et c'est gratuit. Côté théâtre, festival in vitro, Le Passeur d'étoiles, le texte adapté du Petit Prince de Saint-Exupéry et de Marina Salmon, mise en scène par Clara Botero et Mathieu Pinchina, avec les étudiants Lucas Gentil, Jean-Charles Janté et Théo Kerfridin à 21h au Trioletto, 75 rue Augustin Flich, ça doit être arrêt université, entrée libre. Et puis c'est les vacances, donc on pense à nos chers enfants avec de la musique. Les Whippers Circus présentent un extrait de leur nouveau spectacle pour enfants, programmé donc au Printival de Pézenas le 22 et 23 avril à 16h à la librairie Soramps Polymum au Triangle. Et l'entrée est libre, si vous écoutez la rediffusion, c'est un peu trop tard. Yeah. toujours pour nos enfants du conte avec le grand chaperon rouge et le petit loup par la compagnie Skinofolie avec Carole Bélanger et Marion Trintignant à 15h au Kawa Théâtre, 18 rue Fouque, prix des places allant de 7 à 6 euros. Toujours du théâtre avec le journal de Grosse Patate, texte de Dominique Richard, interprété par Roselyne Villomé, l'histoire d'une petite fille un peu enveloppée à 15h à la maison pour tous Rosalie Parks, quartier Malbosque, téléphone au 04 67 04 08 61. Toujours du théâtre avec Blanche-Neige décongelée, pièce de la compagnie BAO, mise en scène par Jordi Cardonner avec Françoise Bocalifuccio, Maric Reviolon et Jordi Cardonner, version décalée du conte des frères Grimm à partir de 3 ans à 16h au théâtre de la Vista 42. À rue Adam de Craponne, prix des places de 7 à 6 euros. Puis toujours pour nos enfants, puisque c'est toujours les vacances, encore dans notre coin, des contes à Palavas, vent dessus, dessous, conte du bassin méditerranéen, par le comédien Philippe Charleux et le musicien Marc et Eva, oud, accordéon, guitare, percussion au programme à 15h au Nautilus à Palavas, et l'entrée est libre. Côté conférence, un café poésie, rencontre et lecture de poésie sur le thème La Lumière, organisé par l'événement Insolite à 19h au Café du Théâtre, Place de la Comédie. Et le prix n'est pas communiqué, donc c'est peut-être libre, allez-y. Et on terminera ces bons plans par, évidemment, en conférence l'Agora des Savoirs, une conférence sur le thème « Naissance de la politique moderne » par Pierre Manant, directeur d'études à l'ES, avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Montpellier. C'est à 20h30 à la salle Rabelais, boulevard Sarail, sur l'esplanade, l'entrée est libre. Et puis si vous ne pouvez pas vous y déplacer, Divergence FM à 20h30 vous le diffuse en direct. Soyez à l'écoute. Et c'est ainsi que se terminent nos bons plans du mercredi. Prochain bon plan, sans doute demain, évidemment. On passe à la nouveauté de la semaine. Nouvel album de Gonja Sufi, Sufi and Killer, qui est sorti tout droit des presses du label Warp Records. Et on va écouter le morceau numéro 12 avec Holidays.
Holidays, babe, my holidays. trying to rewind and only stay in past times. I know I've spent so much energy on worry pays. This road path that I'm on, I know's the only way.
Gonja Sufi, extrait de son dernier album Sufi and the Killer. Prochain morceau, prochaine découverte de cet album demain, même heure. Pour l'instant, je vous laisse dans les mains de Julia qui reçoit Denis Badeau.
Tous au poste, interview.
Poésie verticale, une création eh bien, de Denis Badeau du chœur de chambre et de l'ensemble de saxophones de Montpellier. Une création qui est visible eh bien, en ce moment même à Mirval, au centre culturel Léo Mallet. Puis c'est une création qui provient de la scène nationale de Sète et du bassin de Thau. Je suis aujourd'hui avec Denis Badeau, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, poésie verticale, ça fait tout de suite écho au poète argentin Roberto Juarros, qui, outre être un poète prolixe et protéiforme, a créé vraiment un genre particulier qui est la poésie verticale. Qui est Roberto Juarros, pour commencer ?
Roberto Juarros est un poète argentin, décédé, qui a vécu au XXe siècle, mort en 85, je crois.
À l'âge de 69 ans, je crois aussi.
Peu connu en France, mais mondialement connu. Je ne vais pas faire le frimeur. Il y a 2 ans, je ne le connaissais pas. Mais quand on m'a passé la commande de Poésie Verticale, c'était une commande pour un chœur. Et je me dis toujours que les gens, quand ils chantent, ils aiment bien chanter des textes plutôt que « ah, oh, oh, oh ». Et autant essayer de leur faire chanter des textes intéressants. Il se trouve que je suis assez fan de poésie, donc bah, comme d'habitude, je prends mes livres, je commence à lire, Char, Pessoa, tout ça. Voilà. Et puis, ma compagne me dit « Est-ce que tu connais Juarros ?» Je dis « Non ». Donc je découvre, et c'est coup de foudre immédiat, mais vraiment, sur tout, c'est-à-dire le sens, la forme, le rythme, voilà.
Est-ce que, alors, Roberto Juarros, il disait qu'il confrontait l'espace de la poésie à l'esprit de la réalité. Est-ce que c'est ça qui fait écho en vous, particulièrement ?
Pas forcément, bien que si c'est lui qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Non, c'est plus... pour moi, la magie de la poésie, c'est d'abord la forme, c'est-à-dire ce qu'on peut appréhender immédiatement. Et ensuite, s'il y a du sens et s'il y a du fond, évidemment, je vais être encore plus séduit. Donc, il y a cette première lecture qui fait que, yes, j'aime le rythme, j'aime les images, j'aime ce qu'il dit, au premier degré. Et puis après, quand je creuse un peu, je dis, en plus, il dit des trucs vraiment intéressants.
Vous vous souvenez du poème sur lequel vous êtes tombé lorsque vous avez feuilleté cet ouvrage ?
Bah, je ne l'ai pas feuilleté parce que j'ai tout lu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit 10 tomes, que dans chaque tome, il y a une 60aine de poèmes. Et que l'autre chose qui m'a plu, c'est que chaque tome s'appelle Poésie verticale. Tome 1, Poésie verticale, tome 2. Et chaque poème a un numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et ça, ça m'a vachement plu, parce que dans la poésie, c'est un peu comme dans les chansons ou comme dans certaines pièces de musique classique. Le titre nous influence déjà avant la lecture. Et ça m'a vachement plu, parce que le numéro, il ne m'influence pas. Numéro 3, je ne sais pas de quoi ça parle. Alors que si ça s'appelle « Désespoir au bord du lac », bon, bah déjà...
Il y a André Velter qui disait dans un article « La poésie comme élévation dans le monde du 4 avril 1995 », je cite, « On dirait que, donc, on dirait que Roberto Juarros a fait de la pensée la musique de ses poèmes et que ses questions découvrent des harmonies secrètes, des dissonances recluses et d'infinis silences. » Ça vous parle ?
Ouais, je trouve ça assez joli. Bon, c'est là pour le coup, j'irai pas gratter le sens parce que ça me paraît un chouïa compliqué. Mais au niveau du son, j'aime bien et surtout ce que ça veut dire, à mon avis, c'est que Juarros a une écriture musicale. Donc elle parle assez directement aux musiciens et ensuite par rapport aux improvisateurs, quand je suis aussi improvisateur, ouais. Je crois qu'une des choses qu'on aime dans l'improvisation, une des choses qui font qu'on a besoin de l'improvisation, c'est le goût de l'inédit et de la surprise. Et que Juarros, je trouve, gère ça très bien. C'est-à-dire qu'il va démarrer une phrase qui semble nous emmener quelque part et la chute de la phrase va nous surprendre. Ou alors, il manie assez bien l'absurde. Par exemple, tomber vers le bas n'est qu'un peu plus long ou un plus rapide qu'aller vers le haut. J'aime bien ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont réfléchir pendant 3 jours sur le sens de cette phrase, alors que je pense qu'il n'y en a pas plus que ça.
Il y a une histoire de silence aussi dans la poésie de Juarros.
Oui, il y a une histoire de silence. Il a beaucoup écrit sur le sens des paroles, le sens des mots, et donc la place nécessaire à accorder au silence. Et il se trouve que traduit en musique, c'est quelque chose aussi qui est assez important pour mes petites oreilles.
Et justement, vous avez choisi 4 poèmes de son œuvre. Lesquels sont-ils et pourquoi ?
Alors c'est simple, je voulais une cohérence dans le propos. Donc j'ai choisi des poèmes où il ne traite que de la parole. Et pas d'autre chose. On imagine bien que dans les 10 tomes, il a parlé de tout, de la naissance, de la mort, de la joie, de la peine, etc. Et il y a certains poèmes régulièrement où il revient sur les paroles. Il est des paroles que nous ne prononçons pas et que nous enfermons dans les choses.
Alors ce serait quoi, de la parole mise en musique pour cette création ?
Non, c'est des textes sur la parole. Et je trouve ça intéressant quand les gens chantent, que ce qu'ils sont en train de chanter... Ça titille la parole. Pour des chanteurs, je trouve ça plutôt sympa.
Alors, je rappelle que vous êtes accompagné par les élèves du conservatoire. Hein. Il y a notamment le chœur de chambre composé de 40 élèves et l'ensemble de saxophones composé de 12 élèves du conservatoire. C'est la première fois que vous recevez des jeunes élèves qui vous accompagnent pour une création ? Ou c'est courant ?
En ce qui me concerne, c'est assez courant. Je suis assez motivé par ce genre de projet. Donc j'ai déjà fait ça ailleurs en France, à Orléans, à Toulouse, bon, je ne vais pas tous les citer. Ce qui me motive là-dedans, c'est ma conviction, c'est que d'abord, ma musique peut être jouée par beaucoup de gens, et ça veut dire pas seulement les jazzman ou les classiques, hein, qu'elle peut toucher un public très large. Et ensuite, je milite pour la rencontre. Ça veut dire que je trouve ça extrêmement important que des jeunes musiciens, parce que là, en l'occurrence, par exemple, pour Montpellier, on peut plus vraiment les appeler des élèves. Ils ont entre 18 et 25 ans, ils sont en fin d'études. Par contre, ils veulent, pour la plupart, devenir musiciens professionnels. Je trouve ça important que de jeunes musiciens puissent rencontrer des musiciens professionnels. Je trouve ça extrêmement important que les classiques rencontrent les jazzmen. Je trouve ça très important que les amateurs rencontrent les professionnels et que les rockers se confrontent aux jazzmen et réciproquement et que ceux qui improvisent jamais rencontrent ceux qui improvisent. Et que oui, on va faire de la musique tous ensemble et ça va être bien. Voilà.
Les passerelles vous intéressent, en tout cas les passerelles entre les différents genres musicaux ou entre les différents genres artistiques, on le retrouve aussi dans la création. Hein. Vous mêlez poésie contemporaine, musique contemporaine, jazz, c'est très éclectique.
C'est éclectique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas patchwork, et je fais gaffe à avoir un propos et une cohérence, parce qu'on connaît les dangers de l'éclectisme. C'est la force d'aller partout, on va nulle part. En amont, moi, je décide d'aller quelque part. Et après, tout est assujetti à ça, et je vais construire l'œuvre comme... J'essaye comme un romancier, c'est-à-dire j'ai une histoire, j'ai des personnages, j'ai un vocabulaire, j'ai un style, et après je fais mes chapitres. Et donc une fois que le boulot est fait, par exemple, c'est pas possible de se dire « tu voudrais pas mettre le chapitre 7 avant le 6 ?» Non.
Ça ne marche pas.
Mais non, j'ai suffisamment travaillé le truc pour que c'est comme ça que ça se passe.
Poésie Verticale a été créée sous la direction de Jeanne Etting en décembre 2008 à Aix-en-Provence par le chœur Ad Fontes Canticorum et l'ensemble de saxophones de Provence. Jeanne Etting et Jean-Pierre Kainz ont commandé cette œuvre à vous-même pour réunir le temps d'une création, leurs deux ensembles. C'est des gens que vous fréquentez depuis longtemps, Jeanne Etting et Jean-Pierre Kainz ?
Non, je ne les connaissais pas. Donc voilà, je trouve la démarche vraiment intéressante puisque Jan Etting est hollandais, mais il vit maintenant à Aix-en-Provence depuis une dizaine d'années, je crois. Et Jean-Pierre Kainz est saxophoniste et enseignant au conservatoire d'Aix-en-Provence et aussi directeur artistique de l'ensemble de saxophones d'Aix-en-Provence. Et ces gens-là, eux, par contre, se connaissent depuis 10 ans et n'avaient jamais rien fait ensemble. Et pour cause, il n'y a pas de répertoire pour chœur et ensemble de saxophones. Ça n'existe pas. Donc,
c'est une grande première.
Oui, je trouve ça super éclatant de se dire qu'on va faire entendre aux gens un son qui n'existe pas. C'est-à-dire 40 chanteurs et 12 saxophones, ça n'existe pas. Donc, j'ai cherché avant de dire ça, parce que au début, je disais, je sais pas si ça existe. Et puis bon, j'ai vraiment cherché partout, j'ai demandé à plein d'amis très cultivés, et ils m'ont dit, eh ben non, ça existe, il y en a pas. Donc, c'est plutôt sympa, c'est un son inédit. Et donc, leur proposition, elle m'a vachement plu, et puis on a pu la réaliser. On va dire que la seule petite différence, mais ça change pas la qualité du résultat, mais c'est que là, leurs deux ensembles, c'était des ensembles professionnels. Donc ça a changé les conditions de travail, mais je pense que ça change pas le résultat artistique.
Alors pourquoi ils ont fait appel à vous, Denis Badeau ? Alors je rappelle un petit peu votre parcours, hein. Vous êtes un pianiste de jazz reconnu, mais vous êtes également compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Vous êtes vraiment un artiste protéiforme, vous avez touché à tout, Denis Badeau, mais qui êtes-vous ?
Non, je suis normal. J'aime pas les cases, donc c'est comme ça. Mais pour le coup, ça procède d'aucune réflexion. C'est naturel. Donc, être seulement pianiste, ça me suffit pas. Être seulement compositeur, ça me suffit pas. Faire que de l'impro, ça me suffirait pas, parce que dans l'écriture, on touche des émotions qu'on trouvera jamais dans l'impro, et réciproquement, dans l'impro, on touche des émotions qu'on trouvera jamais dans l'écriture. Donc, moi, j'ai vraiment besoin des deux. Et après, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'appartiens à la première génération qui a fait des études classiques très poussées jusqu'au conservatoire de Paris et qui après s'est tournée vers le jazz. Et chez nos aînés, ça n'existait pas, ça. C'est soit on était concertiste classique, soit on était autodidacte en jazz. Nous, on a eu du pot, on est la première génération. Donc, on a cette double culture. Depuis, je dirais, une dizaine, quinzaine d'années, il y a beaucoup de gens qui ont envie de passer des commandes et qui n'ont pas envie de faire du jazz, ni de la musique contemporaine. Donc, ils cherchent un entre-deux. Et il se trouve qu'on est quelques-uns, avec Andy Emler, Jean-Marie Machado, à être dans cet entre-deux, qui prend des choses au jazz et qui prend des choses à la musique contemporaine du XXe siècle, sans parler après de nos influences, mais comme tout le monde, c'est-à-dire de ce qu'on a écouté quand on avait 15 ans.
D'ailleurs, vous écoutiez quoi quand vous aviez 15 ans ?
Beethoven, bien sûr, comme tous les ados de 15 ans.
Christian, tu avais quelques questions à poser à Denis Badeau.
Vous me disiez tout à l'heure, avant que nous démarrions cet entretien hors antenne, que vous détestiez les souris vertes et l'huile. Ça me paraît important de revenir sur ce point. Et surtout...
Je vois que nous sommes en phase.
Vous le dites, hein, vous avez un goût prononcé pour l'expérimentation, histoire de sortir du style, en fait. Et vous le dites, l'artiste est souvent, moi je le traduis comme ça, souvent piégé par le style. Quel est votre style ?
Mais pas tous les jours.
Ah, mais je vous remercie. Alors donc, ensuite, je voudrais revenir sur le spectacle qui va se passer à 7. Il dure combien de temps, ce spectacle ?
Alors, dans ce spectacle, il n'y aura pas que Poésie Verticale, parce que Poésie Verticale, ça dure environ 40 minutes. Donc, la scène nationale de 7 et du Bassin de Thau m'a passé une commande pour l'ensemble de saxophones. Donc là, il y aura une création mondiale d'une quinzaine de minutes que j'ai écrite spécialement pour cet ensemble de saxophones. Ensuite, il y aura une pièce que j'ai adaptée à partir d'un poème de Pessoa qui s'intitule « Le vent ». C'était écrit au départ pour un chœur et un orchestre à cordes. Et là, j'ai remplacé l'orchestre à cordes par l'ensemble de saxophones puisqu'ils étaient là. Ensuite, il y aura une petite pièce d'un compositeur finlandais qui s'appelle Rauta Vaara, qui est très connu dans le monde du chant choral parce qu'il écrit merveilleusement bien pour les chœurs et tous les chanteurs sont toujours très heureux de chanter sa musique. Ça dure 4 minutes. Et après, il y a Poésie Verticale. Le tout pour une durée maximum d'1h15 parce que si c'est plus long, je m'ennuie.
D'accord. C'est le tarif syndical au niveau horaire pour Denis Badeau.
Quand je suis spectateur, oui, j'ai beaucoup de mal avec les spectacles qui durent plus. Il faut vraiment qu'il y ait un propos très prenant pour que ma concentration tienne le coup. Je trouve que la plupart des spectacles durent trop longtemps.
C'est vrai. Et il faut penser à tous ces petits-enfants qui vont voir des spectacles de cirque qui durent 3 heures, entrecoupés de peaux ou coups de publicité.
Par exemple, et il faut penser aussi aux vieux comme moi qui sont mal assis et qui, au bout d'une heure, ont envie de bouger.
Mais bon, à 7, dans 2 ans, sera refait, il y aura des nouveaux sièges.
Espérons.
Mais sinon, chacun peut venir avec son coussin au théâtre de 7, je pense que...
C'est autorisé.
D'accord. Est-ce que le lâcher de coussin sera aussi autorisé pendant le spectacle ou c'est pas prévu ?
C'est pas
le style pour revenir là-dessus.
Non, c'est pas prévu, mais ça peut être autorisé. Le tout, c'est de trouver le bon moment. C'est un peu comme en musique. En fait, il faut trouver le bon moment pour faire les choses.
Le bon moment pour faire les choses, c'est donc Poésie Verticale de Denis Badeau, cœur de chambre et ensemble de saxophone, n'est-ce pas ? Cœur et saxophone, une alchimie inédite. Je rappelle que ce concert est proposé dans le cadre du compagnonnage avec Denis Badeau par la scène nationale, le 2-7. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler de votre actualité. Je vais vous laisser un dernier mot avant de finir.
Oui, c'est une info, bon, pas essentielle, mais quand même, on n'a pas dit que c'était le mardi 27 avril.
Et que c'est à 20h30, j'allais
y venir. Et que c'est à Mirval, et merci beaucoup.
Je rappelle les tarifs. Abonnement, c'est de 7 à 14 euros. Hors abonnement, de 8 à 19 euros. Et si vous êtes détenteur du pass culture jeune et fringant, eh bien, c'est 5 euros pour vous. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Qu'on se le dise. Merci Julia, merci Christian. Pour cette interview, on retrouve Florent Robin avec ses invités.
Tous au poste, interview.
Tous au poste sur Divergence FM, le 93.9. Florent Robin au micro, comme vient de le dire Pascal. Nous allons parler de poésie ce matin, nous allons parler de théâtre avec le théâtre de l'Hyménée. Je reçois Antoine Chaplot et Michael Terra et nous allons parler de Géant Rictus. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors Géant Rictus, c'est un poète qui est un peu oublié aujourd'hui. Il avait écrit, c'est un poète de la fin du 19e siècle, début du 20e. Qui avait écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « Les soliloques du pauvre » et qui a été très célèbre en son temps. Je ne sais même pas s'il est encore édité aujourd'hui. « Soliloque du pauvre » avec un langage où il fait parler les pauvres. Je ne me trompe pas, c'est ça ?
C'est ça. Donc il est réédité, oui, je crois, les éditions Blusson rééditent les œuvres de Géant Rictus. Géant Rictus était de son vrai nom Gabriel Randon, était un homme de milieu 19e siècle et qui a eu une enfance malheureuse et qui a vécu une dizaine d'années durant son adolescence dans la rue à Paris, dans la Bohème. Et je crois qu'il avait une vraie volonté, lui, de s'en sortir et il s'en est sorti par l'écriture. Et de là, traînaillant dans les rues de Montmartre, à cette époque-là, milieu 19e siècle, fin 19e, il s'est retrouvé, après la Commune de Paris, il s'est retrouvé à déclamer ses textes, à les lire dans les cabarets de Bruant, le Chat Noir, le cabaret des Quatre-Arts, voilà, tous ces cabarets-là. Et il s'est sorti de sa vie d'errance et de misère, donc par son écriture et par Voilà, et par le fait d'être de se produire en cabaret, quoi.
Il était connu aussi pour fréquenter beaucoup les milieux anarchistes à cette époque.
À cette époque-là, oui.
Parce qu'après, il a un petit peu évolué.
C'est ça. Après, sur la fin de sa vie, bon, il est devenu royaliste, personne n'est parfait.
Intéressons-nous donc plutôt à la première période. Alors, j'ai noté une phrase de Jean Rictus pour illustrer sa démarche sur les soliloques du pauvre. « Faire enfin dire quelque chose à quelqu'un qui serait le pauvre, ce bon pauvre dont tout le monde parle et qui se tait toujours, voilà ce que j'ai tenté. » Alors, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé pour monter Jean Rictus? Quelle a été la motivation de votre démarche?
Alors, au théâtre de l'Hyménée, pour l'instant, nous avons monté déjà auparavant 2-3 spectacles autour de la poésie. Donc, il y a déjà ce travail de ce questionnement de comment théâtraliser la poésie, comment monter des spectacles avec des poèmes différents, voilà. Il y a eu la volonté de mettre en scène, de porter une parole engagée qui, avec une résonance très actuelle, qui pour dénoncer des choses et voilà, apporter notre pierre à nous, à l'édifice d'une contestation finalement positive aussi, hein, pour éclairer des choses. Voilà. Alors les deux mis ensemble, j'ai découvert l'œuvre de Jean Rictus, qui m'a tout de suite parlé et dont j'ai tout de suite senti une théâtralisation possible. Mmh. Voilà, parce que c'est un langage parlé, c'est un langage de la rue, c'est un langage avec des mots de, je vais dire, du 19e siècle aussi, qui sont intéressants, qui sont bien à se mettre en bouche, qui en tant que comédien m'ont tout de suite plu, m'ont tout de suite parlé. Et puis le projet s'est mis en place au fur et à mesure. Voilà, donc je réunissais un peu les conditions avec ce texte de la volonté de monter ce spectacle. Ouais.
Alors dans les archives de Divergence, on a retrouvé un poème de Jean Rictus, mais dit par Jean Rictus. On va écouter ça tout de suite, si ça veut bien partir.
Les petites baraques, tirées du livre Le cœur populaire, 7 ans. Maman, laisse-moi voir les petites baraques, dis. Arrête-toi, maman, me tire pas. Tu me sahutes, tu me fais mal au bras. Aïe, tu fous toujours des claques. Ben vrai, ce qu'est du populo, maman, ils rigolent comme des baleines. Quoi c'est qu'il leur jacte le camelot? Ce que ça pue, l'acétylène. Maman, les bolhommes, maman, les pépés, les chiens de fer, les flingues, les musiques. Les sables, les vélos mécaniques. Oh, maman, ce que je suis ignolé. Ce qui coûte cher, le cheval du milieu. Celui-là qui est plus grand qu'un enseigne. Je voudrais le voir, moi, nom de Dieu. Oh, maman, tu fous toujours la beigne. Tiens, ton baluchon qui se défait. Ils te l'ont refusé, c'est ma tante. C'est peut-être pour ça que t'es pas contente. « Oh, va donc, maman, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si tu n'as pas de sous? C'est pas pour m'acheter que je t'arrête. Mais rien que Dieu, t'es les joujoux, moi, ça me fait du bien aux mirettes. Si le d'arbre rentre pas mûr et sans le rond, ben, tu me paieras une petite échelle, un orange et deux sous de marron, va, maman, ça fera la rue Michel. Oh là là, ce que je suis fatigué. On n'est pas encore à Saint-Ouen, plus qu'on trotaille, pire que c'est loin. Oh, maman, ce que je suis fatigué. La neige entre dans mes godillots, ça fait du tort à mes engelures. J'ai beau être un gars à la dure, j'ai comme un lin dans les boyaux. Tu sais, le sale môme de l'épicier, il fait son crâneur, son bourgeois. L'autre nuit, il a eu dans ses souliers une petite balance et des vrais poids. N'avait qu'une belle petite bagnole, une boîte de troufion, un guignol. C'est le Père Noël, à ce qui paraît, pour voir, dit maman, c'est-tu vrai? Vous qui nous a demandé, les crapauds, expliquez-moi ce que vous avez eu de la part du petit Jésus. Nous, qu'on lui a répondu, la peau. Alors, ce n'est pas ce qu'il nous a dit, maman. et nous appeler plein de poux. Le Père Noël, c'est sûr, pardi, ne va pas chez les purées comme vous. Enfin Dieu, les autres, moi, mes frangines, tous dessus on y a cavalé. Oh, qu'est-ce qu'on y a mis comme volée. Dame aussi, pourquoi qu'il nous chine. Puis on y a cassé ses affaires, puis après on s'est fait la paire. Ah bah, c'est pas ce qu'il nous a dit. Tant de salaud, je vais le dire à mon père, et je vous ferai couper votre crédit. Oh là là, maman, qu'est-ce qu'il prend? Marie, c'est lui la mauvaise graine. Aïe, oh, souper, merde, ce que j'étreine. Sûr, on voit bien que c'est le jour de l'an.
Voilà, c'était donc la voix de Jehan Rictus, un poème de Jehan Rictus, dit donc par Jehan Rictus. Vous connaissiez cet enregistrement?
J'ai eu écouté, oui, des extraits comme ça de Jehan Rictus. Celui-là particulièrement, non, mais voilà, ça ne me surprend pas parce que tout ce qu'il disait était toujours dit de la même façon, quoi, avec ce ton un peu déclamatoire, voilà, qui est très fin 19e, quoi.
Et cet extrait, il illustre bien quand même le style de Rictus, style qui est vraiment un style fin de siècle populaire. Ah, et c'est ça qui était nouveau.
Oui, et puis on entend bien tous ces mots un peu argotiques, cette façon de tourner les phrases, de hacher finalement les phrases, et de pour retrouver le vraiment, je crois que c'était son credo, lui, de retranscrire vraiment le parler de la rue tel qu'il se pratiquait, voilà, à la fin du 19e siècle, quoi, dans les quartiers populaires.
Et au niveau de la mise en scène, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous ?
La mise en scène.
Déjà, j'imagine que c'est pas évident quand même.
Ah pas du tout. Donc quand Antoine m'a présenté le texte, j'ai commencé à. Bon, je connaissais un peu cette période-là, mais ça m'a permis de confirmer ou d'approfondir ce qui se passait à cette époque d'industrialisation, donc 19e siècle. C'est aussi une période, l'électricité est arrivée en 1879. Donc on est avec ces histoires de création. Voilà, l'industrie, le charbon, le développement de la bourgeoisie, tous ces siècles de révolution. Ce texte, il a été écrit en 1897, par là.
95, bon, je crois.
96, ouais, par là aussi.
Je crois que la première édition date de 95.
Dépend. Oui, voilà, bon, d'accord.
La première édition était à compte d'auteur.
Oui, voilà, mais enfin bon, c'est suivant les éditions. En tout cas, nous, ce qu'on a calculé à peu près, c'était qu'entre 25 et 29 ans, il avait, quand il a écrit ça. Donc, pour reprendre un peu ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, moi, je suis parti de plusieurs choses, c'est-à-dire déjà la parole, le texte, cette poésie. Il se trouve que moi aussi, par mes activités théâtrales, j'avais déjà fait un travail sur la poésie. Ensuite, c'était comment faire avec un comédien en scène pour que ça soit dit. Après, qu'est-ce qu'il dit, ce texte ? Il parle de pauvreté, donc soliloque du pauvre. Comment mettre la pauvreté en scène ? C'était pas l'histoire de mettre un pauvre en scène, mais plutôt la pauvreté. Qu'est-ce que ça représente, la pauvreté ? Qu'est-ce que ça signifie ? À quoi ça fait écho en chacun de nous ? Et donc je suis parti sur cette idée de manque, que a priori, voilà, le pauvre, il lui manque des choses. Lui, il est riche, pourquoi ? Bah parce que lui, il a beaucoup de choses. Pourquoi moi, je pense que je suis pauvre ? Parce que j'ai pas. Donc c'est là où ça peut faire résonance avec notre époque. Et ensuite, d'un point de vue un peu plus, entre guillemets, psychologique... Je me suis dit qu'il y a une idée d'enfermement, de limitation, d'aliénation. Cette pauvreté mène à l'aliénation. On a eu un texte de Büchner, comme ça, début du 19e, qui s'appelait Wojciech, qui le personnage principal, le héros, devient fou. C'est le premier texte moderne, on pourrait même dire, en tout cas qui parle des basses souches, des basses conditions. Un texte en plus qui n'est pas terminé, qui est par fragments. Et j'ai un petit peu pris le texte de Rictus de cette manière-là. C'est un texte qui n'est pas théâtral au départ, donc il a fallu en faire un objet théâtral. Alors comme moi, je suis contre le théâtre, je me suis dit comment faire du théâtre, mais que ça ne soit pas du théâtre. Donc déjà, ça, c'était un truc pas simple. Et puis après, il y avait un comédien en face. Il fallait nourrir tout ça. Et puis en même temps, l'histoire du théâtre fin 19e, elle se coupe un petit peu. Enfin, elle se bat entre ce qu'on appelle le naturalisme, le réalisme. Sur la scène, il y avait eu des essais à Paris à l'époque où on mettait des quartiers de viande sur la scène. Ça s'appelait les bouchers. Alors ça, c'était tout le réalisme. Et puis, il y a eu le courant symboliste avec les pièces de Maeterlinck, entre autres, où on faisait des essais avec du parfum. Ils mettaient du parfum parce qu'ils voulaient que le spectateur soit complètement pris par les choses. Donc moi, j'étais un peu tiraillé par tout ça. Puis il y a cette notion du théâtre populaire, donc avec l'aspect spectaculaire des choses, où on donne à voir. Donc c'était comment parler de la pauvreté et en même temps faire un spectacle qui ne soit pas miséreux, misérable. Le théâtre de l'Hyménée posant une ambition aussi de montrer quelque chose qui, ben voilà, d'ambitieux, qui soit reconnu aussi, puisqu'avec Antoine on avait déjà travaillé avec des plateaux vides, etc. Mais bon, à un moment donné, c'est aussi important qu'on soit, enfin, que le travail soit reconnu. Et dans la région de l'Aude, comme on n'est pas à Paris, c'est moins facile de passer à Antenne 2. Donc, voilà, c'était une manière...
Vous passez à Divergence.
Ouais, bah voilà, on a réussi, enfin, mieux. Ça y est, on est arrivé à Montpellier, c'est super. Donc, c'était cette tension entre la simplicité du texte et en même temps son étrangeté, parce que c'est des mots, tout d'un coup, qui viennent d'ailleurs, et pourtant qui sont du français. Et en même temps, voilà, il y a eu un 20e siècle qui est passé entre-temps. Mmh. Et comment faire quelque chose qui... Alors bon, après, moi, j'ai essayé de cadrer ça, de dire, ça se situe historiquement pour nous, fin de la guerre. Donc c'est la Commune de Paris, hein, puisqu'il avait 4-5 ans quand il y avait la Commune de Paris. Et de faire ce cadre temporel, disons, pour nous, pour essayer de créer une fiction... comme ça, d'envelopper ce texte et Antoine, comédien, entre donc 1870 et 1914 pour annoncer donc la première grande boucherie de l'humanité, quoi.
Mmh. On va peut-être voir ce que ça donne, Antoine, si vous voulez bien nous lire un petit extrait.
Alors, oui, je vous...
C'est un exercice périlleux que je vous demande.
Non, enfin bon, évidemment, je vais pas le faire comme si j'étais sur scène, mais je vais vous lire un petit extrait de cette adaptation qu'on a faite, donc, de plusieurs poèmes des Soliloques du Pauvre. Hein, parce qu'il y a vraiment eu un travail aussi d'adaptation des textes et des poèmes entre eux. Hein. Voilà, donc un petit extrait, oui, qui fait partie de notre spectacle. Oui, ce soir, ce doit être un soir de fête. Oh ben, c'est plein de rigolos dans les rues. Oh, il y en a déjà qu'on leur muffé. Ils tiennent un copain qui dégueille, alors que moi, j'ai rien briefé. Oh, hey! Ils passent, les viveurs fastueux de la Troisième République. Eux, leur guêtre et leur fouche chambard et leur punaise. À 3 francs l'heure, c'est de la misère et du cauchemar. C'est de la cruauté qui m'effleure. Et quand il n'y en a plus... Il y en a encore. Ils piaillent, ils rouspètent, ils se querellent. C'est du suffrage universel qui passe et qui est content de son sort.
Très bien, merci à vous.
Juste, c'est important de le dire, c'est que le spectacle ne tourne pas autour seulement d'Antoine. Il y a aussi un créateur de son. Donc, pendant qu'Antoine dit le texte, le joue, puisque moi, une des ambitions, c'était de faire vivre les mots, de faire vivre le texte, de donner du corps... cortex, donc. C'est facile, ça. Et donc, le créateur sonore, le créateur de son, donc, c'est Jean-Christophe Camps. Ça, c'est très important parce que ça représente pas la, enfin bon, on va pas mettre des pourcentages, même si on est dans un siècle où il faut tout comptabiliser, mais encore que pour les subventions, c'est vrai qu'on pourrait mettre du 200%. Je serais content, Jean-Christophe, si je disais ça. Non, je rigole. Non, mais donc il y a le son, il y a une lumière aussi. Donc voilà, on en a fait on a mis en lumière, on a mis en son ces mots. Et Antoine, lui, son boulot de comédien, c'est d'amener l'émotion, c'est d'amener la part invisible, la part irrationnelle, la part qui fait que il y a une exigence et une nécessité de rencontrer un public. Voilà. Alors moi, après, j'ai juste une note personnelle qui n'engage que moi.
Attention.
C'est que, oui, non, mais là, bon, on est à divergence, je vais me permettre quand même. C'est que moi, je ne suis pas du tout dans la production. Hein. Moi, je suis juste un petit employé pour cette production en tant que metteur en scène. C'est que j'ai appris comme ça que la DRAC, donc ce qui s'appelle la Direction Régionale des Affaires Culturelles, je le dis, c'est que bah, comme il n'y a qu'un seul comédien sur scène, la DRAC Languedoc-Roussillon considère qu'elle ne va pas subventionner. Voilà, donc je trouve ça étonnant qu'un texte de Jean Rictus, qui est quand même un texte qui fait partie du patrimoine national en plus, il n'y a même pas droit d'auteur à payer puisque il était pupille de la nation, donc les textes appartiennent à tout le monde, aux Français. Et voilà, donc ça, a priori, c'est pas culturel. Alors moi, je me dis, c'est pas grave, c'est en tout cas pour moi artistique. Mais comme on n'a pas de ministère artistique, on n'a pas de subvention. Et pour finir sur la lumière, c'est donc Ronan Fablet qui s'occupe de la lumière avec les créations assez nuancées. Voilà.
Est-ce à dire que Jean Rictus dérangerait toujours ? Il a dérangé à une certaine époque. Il a dérangé une certaine bourgeoisie.
Écoutez, alors là, est-ce que, en tout cas, c'est aussi la manière qu'on a eu, nous, tous ensemble, toute l'équipe, de travailler résidence après résidence pour arriver à la création de ce spectacle. C'est notre proposition artistique et sa rencontre avec le public qui va nous dire l'émotion du public, si ça le dérange, si ça le provoque, si comment chacun ressent cette résonance actuelle que nous on sent d'une manière très forte. Là, moi, aujourd'hui, là maintenant, est-ce qu'il dérange encore ? Je sais pas. En tout cas, il continue de poser des choses qui ne sont pas réglées, qui n'ont pas été, arrangées socialement au niveau de la société, hein, depuis tout ce temps-là. Hein. On se souvient des combats. Dans les années 50 de l'abbé Pierre, des combats des Restos du Cœur. Il y a toujours besoin de gens, d'associations pour faire le lien social entre les différentes couches de notre société, quoi. Bon, maintenant, est-ce qu'il dérange aujourd'hui ? Je sais pas. Venez voir le spectacle, vous
le
lirez.
Le spectacle.
Je crois que la question dont vous posez, ça rejoint une question générale qui dit est-ce que l'art, est-ce que un tableau, une musique, ça peut effectivement créer la révolution ? Voilà. Ça, en gros, ça répond toujours à cette question-là. Moi, j'ai pas posé ça dans cette ambition-là. Je veux dire, au départ, d'un point de vue comme ça, simple artisan, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de la sensation. Mais pas en termes sensationnels, la sensation de sensitivité des choses et que le sens se dégage de tout ça. La difficulté, encore une fois, dans la direction d'acteurs et de tout cet objet comme ça qu'on met en place, c'est de pas surjouer les mots et le sens justement qui est déjà assez fort et déjà dit. Donc tout d'un coup, c'est créer une espèce d'ouverture d'opportunité pour chacun de chaque spectateur de pouvoir aussi créer son propre cheminement dans ce qu'on dénonce, qui est toujours l'injustice et qui depuis l'enfance, quand on est marqué par ce truc-là, c'est insupportable. Mais après, moi, je suis pas là pour faire, on n'est pas là pour faire une espèce de psychanalyse de groupe. Hein.
On va rappeler que le spectacle donc a lieu le 26 avril 2010 à la Cigalière à Sérignan.
Voilà, ce sera la première et après le spectacle aura sa vie sur les saisons 2010, 2011, 2011, 2012, nous l'espérons.
Et merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce Tous au poste et puis vous revenez quand vous voulez sur Divergence FM.
Merci
à vous.
Merci Florian.
À bientôt.
Ainsi se referme cette édition de Tous au poste. Florent Robin, Julia Chamodon, Christian Coste et Pascal Roulier, moi-même, vous remercie de l'avoir suivi. À suivre sur le 93.9 à 13h20, ce sera l'écrou d'Olivier Notal, pas de cinérama avec toute l'équipe de Vincent Pourageau à 13h30, donc pas de cinérama non plus à 18h. À 19h, ce sera 24 notes secondes. 19h30, sans doute Rock'n Page. 20h30, n'oubliez pas l'Agora des Savoirs en direct de la salle Rabelais. Et aussi sur le 93.9 de Divergence FM, 22h. Salut les PD. Et voilà, quant à moi, je vous dis une bonne après-midi à l'écoute des programmes de Divergence FM. Merci de votre fidélité.